l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de Sporama en 2018 en tout cas. Suivez VOA Afrique, nous sommes la veille de 2019. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Élisée Nkwatine est en direct de Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba.
Et nous retrouvons Amdine Si dans l'Ohio ici aux États-Unis. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, Thierry Kambundi de Top Congo FM et Amine Birouk vont nous rejoindre. On aura aussi une réaction du côté de Ouagadougou avec Salif Kabore qui revient sur VOA Afrique. Eh bien, vous le savez, on connaît désormais les quatre groupes de l'édition 2018-2019 de la Ligue africaine des champions. Le tirage au sort a été effectué vendredi dernier par la CAF. Alors, Élisée, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Nigériens de Lobistar feront office, on dira, d'outsider dans un groupe A, composé en plus du Wydad Casablanca, sacré en 2017, et de Mamelodi Sundowns, vainqueur en 2016. Élisée?
Allô, Yacouba?
Oui, vous m'entendez?
Oui, 5-5.
Alors, donc, je le disais que les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa se retrouvent logés dans la poule A en Ligue des Champions avec les Nigériens de Lobistar, mais aussi en compagnie du Wydad Casablanca, sacré vainqueur de l'édition en 2017, et de Mamelodi Sundowns, vainqueur en 2016. Compliqué pour l'ASEC Mimosa.
Vraiment compliqué pour la SEC et Lobista, puisque Mamelodi Sundowns et le Wydad Athletic Club de Casablanca s'étaient déjà retrouvés dans le même groupe l'année dernière. Et bien là, les Sud-Africains ont été éliminés simplement puisque le Oroya de Conakry était passé par là. Donc Wydad et Guinéens se sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc c'est une revanche pour le club sud-africain. Voilà, la SEC qui a manqué de peu la qualification pour la Ligue des Champions et qui a été reversé en Coupe CAF et qui n'a pas pu sortir de son groupe qui était composé du futur finaliste, des deux futurs finalistes, j'allais dire, le Raja de Casablanca et la SV Club. C'est-à-dire que ça va être un peu compliqué. C'est vrai que la SEC n'est plus l'équipe qu'on connaît, de l'équipe des années 90 ou encore des débuts des années 2000 où il y a eu trois générations, notamment la génération des Gelchire Souba ou encore la génération des Haruna Didane, la troisième génération est celle de Yaya Touré. Donc c'est dit que la SEC ne produit plus réellement un bon football. C'est vrai que la formation se poursuit et cette année il y a eu d'énormes recrutements, notamment quelques Burkinabés qui ont signé dans cette équipe, surtout l'attaquant Ahmed Touré qui est le Goliath de cette équipe. Ça va être un peu compliqué mais pas impossible puisque Amani Yao Touré l'a dit la dernière fois, l'objectif ce n'est pas de jouer la phase de groupe mais c'est d'aller très loin et l'équipe prendra les matchs les uns après les autres et ça va être un peu compliqué mais pas impossible puisque c'est un groupe abordable.
Merci bien Élisée. Tenant du titre, l'Espérance Tunis hérite d'un groupe B abordable mais aussi assez relevé. Les Tunisiens seront opposés à des habitués, les Orlando Pirates sud-africains et à de nouveaux invenus, les Zimbabwéens du FC Platinum et le Oroya AC. Amdine, alors pour caricaturer, on pourrait dire que les Orlando Pirates et les Guinéens du Oroya y vont en outsider et les Zimbabwéens du FC Platinum sont quant à eux confinés dans le rôle de petits poussés face à l'Espérance de Tunis.
Tout à fait, Yacouba. Espérance de Tunis et Orlando Pirates vont partir favoris dans ce groupe. Mais attention au Oroya de Conakry. Oroya qui, depuis deux ans, est en train quand même de rivaliser d'ardeur avec les clubs maghrébins. Donc moi, je mise un peu sur le Oroya avec cette qualification où ils ont réussi quand même la remontada extraordinaire. Donc moi, je mise un peu sur les Guinéens du Oroya pour créer un peu la surprise. Mais attention, parce que la Ligue africaine des champions est devenue une compétition très relevée. Il faut des moyens, il faut des infrastructures et un bon effectif pour pouvoir y passer. Et je pense que les Guinéens sont sur la bonne voie Et cette fois-ci, ils vont faire tout pour passer le cap du premier tour et pourquoi pas jouer les coupes faites pour aller jusqu'en demi et en finale parce que le football guinéen a besoin de ça parce que depuis les années 60 et les années 70 avec le Afia de Conakry, la Guinée n'a pas réussi à placer un club au niveau du carré d'as. Donc ça se travaille. On met beaucoup de moyens avec le président Antonio Suarez et ils ont un bon effectif et je pense que cette année ils peuvent quand même réussir un grand coup, Yacouba.
Merci bien, Élisée. Alors, on a retrouvé Amine Birouk du côté de Casablanca au Maroc. Bonsoir, Amine. Amine, bonsoir. Et donc, Amine, qu'on va essayer de rejoindre. Hein. Alors, Jules, Amdine faisait cas du Oroya tout à l'heure. On dirait que les Guinéens tenteront quand même de surfer sur cet exploit qu'ils ont eu, qu'ils ont fait, en écartant les Libyens d'Al Nasr Benghazi lors du dernier tour.
Oui, un exploit qui a permis de voir qu'ils savent réagir, mais il ne faut pas s'arrêter à cet exploit. Ils ont fait une bonne saison, un bon parcours en Ligue des Champions de l'année passée. Et donc, c'est dans la continuité. Et je pense que dans cette poule, après l'expérience de Tunis qui paraît être mieux placée pour être qualifiée, et tout se jouera en fait entre les Orlando, les Platinum et Oroya. Mais à mon avis, Oroya part déjà avec un avantage psychologique sur les deux autres adversaires.
Merci bien, Jules. Alors, l'autre formation tunisienne, le club africain, a hérité d'un groupe C difficile avec la présence du TP Mazembe, de la RDC bien sûr, Ismaili d'Égypte et les Algériens de la CS Constantine. Alors, Élisée, les Congolais vont devoir gérer 3 chauds déplacements en Afrique du Nord, comme la saison passée.
Oui, d'ailleurs, le tout-puissant Mazembe est un habitué de cette compétition et c'est un club qui a souvent joué avec les clubs du Maghreb et une fois encore, le club de Lubumbashi se retrouve dans un groupe où il y a encore d'autres clubs qui ne sont pas forcément habitués à la Ligue des Champions, mais qui dit, les clubs venus du Maghreb dit forcément l'expérience avec une très bonne institution, avec de très belles infrastructures. Donc, c'est dit que quelque part, ça va être un peu compliqué pour le tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, le latéral droit international congolais, Issama Mpeko, l'a dit, c'est un groupe un peu compliqué pour les Corbeaux. Mais compte tenu du vécu de ce club qui est toujours à la recherche d'un nouveau titre en Ligue des Champions, ça va dire que Pamphile Mihayo a du pain sur la planche. Et pour aller chercher cette Ligue des Champions, ça passe déjà par de très belles prestations dans ce groupe-là, où il y a non seulement CS Constantine, mais aussi Ismaili qui a fait une très belle campagne qualificative. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour le tout-puissant Mazembe, mais pas, c'est possible de faire ce résultat sur l'effectif que dispose Pamphile Mihayo, qui domine sans partage le championnat congolais qui a démarré depuis le mois dernier.
Merci bien, Élisée. On va juste rappeler que, enfin, dans le groupe D, l'ambitieux finaliste sortant à l'Ali se frottera à celui de la Coupe de la Confédération l'AS Vita Club et à deux gros outsiders, les Algériens de la JS Saoura et les Tanzaniens de Simba. Alors, Amdine, à l'Ali, qui repart à la reconquête de cette Ligue des Champions, perdue, on se rappelle, face à l'Espérance Tunisie.
Oui, Al Ahly qui a gagné quand même de fort belle manière, bon, qui a perdu quand même cette Ligue des Champions, on le sait, mais c'est une très bonne équipe. On sait que en Égypte, les équipes sont vraiment organisées et ils sont très expérimentés par rapport à cette compétition qui est la compétition la plus prestigieuse au niveau africain, mais c'est très difficile parce que on sait qu'en Afrique, il y a vraiment des clubs très épais comme le tout-puissant Mazembe, vous l'avez dit. On a vu aussi le WAC qui a eu du mal à conserver son titre. Ce sera le cas pour toutes les équipes. Hein. C'est une compétition très relevée, donc il faudra sortir le grand jeu pour pouvoir en sortir. Je pense que pour les matchs de foule, c'est pas tellement difficile. Il faut négocier les matchs quand on reçoit et quand on se déplace, on essaie au moins de revenir avec le point de bascule. Je pense que comme ça ira. Et au niveau quand même des matchs à éliminatoire direct, les négocier et pour pouvoir en sortir. Mais ce ne sera pas facile parce que c'est la crème du foot africain qui est en jeu. Donc, il faudra faire attention pour s'en sortir.
Alors, Jules, on le disait tout à l'heure, ce sera une affaire de finaliste malheureux dans ce groupe D entre Al Ahly, perdant de la Ligue des Champions, la dernière finale de la Ligue des Champions, et l'AS Vita Club qui est tombé aussi en Coupe CAF.
Oui, bien sûr. Là, c'est clair, ces deux équipes tiendront à faire respecter leur rang. Al Ahly, on s'y attend tout le temps. Al Ahly ne peut pas se permettre de se faire éliminer à ce stade de la compétition. Et c'est un habitué. Et disons que de ces joutes africaines, et Vita Club est de retour depuis quelques années et a montré avec son coach, qui est en même temps le coach de l'équipe nationale, que l'équipe est déjà au niveau des meilleurs en Afrique. Et donc je ne pense pas que ces deux clubs-là pourront avoir des problèmes très sérieux dans cette poule. D'autant plus que, il faut pas l'oublier, c'est une qualification dans une poule en groupe, dans un championnat. Ce ne sont pas des matchs à élimination directe.
Merci bien, Jules. Je pense qu'on a retrouvé Amine. Bonsoir. Amine, bonsoir. Décidément, on n'aura pas Amine Birouk de Casablanca ce soir. Vous suivez Sporama, suivez VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. La CAF a aussi effectué le tirage au sort des barrages de la Coupe CAF. Coton Sport de Garoua affrontera Asante Kotoko du Ghana. Jules, je reviens à vous. Cette double confrontation s'annonce quand même assez équilibrée.
En tout cas, c'est une bonne affiche. Une bonne affiche qui peut, nous ramener des souvenirs, surtout nous les vétérans. C'est une affiche des années 2000 et qui, ma foi, attirait les foules, notamment dans les joutes finales des compétitions africaines. Et là, nous avons deux équipes dont revanchables qui tiennent à regagner le Gotha africain. Et c'est une confrontation très équilibrée, sauf que le Coton Sport de Garoua a le malheur de jouer dans un championnat qui est peut-être un peu moins relevé que dans le passé, tandis que Asante Kotoko bénéficie d'un football qui a le mérite, lui, de présenter toujours des jeunes talents, d'autant plus qu'il a opté pour la formation.
Merci bien. Jules, le stade malien se frottera au Petro Atlético de l'Angola. Alors, Élysée, les Maliens ont été reversés en Coupe CAF et se lanceront sans doute dans une opération rachat après l'échec face à la SEC en Ligue des Champions.
Oui, et ça s'annonce encore plus compliqué, Yacouba, puisque le Petro Atlético, c'est une équipe qui domine actuellement le championnat angolais, puisque le club est actuellement leader devant le Primeiro do Agosto, et qui a été jusqu'à demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Donc ça veut dire que, quelque part, le stade malien a hérité d'un gros morceau. C'est vrai que le football angolais n'est pas totalement connu sur le plan africain, surtout concernant la Coupe d'Afrique des clubs. Et quelque part, il faut dire que les Angolais aussi ont un très bon championnat, notamment avec des étrangers, notamment les Congolais, démocratiques ou encore les Congolais venus de Brazzaville, qui sont désormais là-bas pour renforcer les clubs angolais. Donc le stade malien devra ôter le niveau de son jeu si, bien sûr, ce club veut se qualifier pour la phase du groupe de la Coupe de la Confédération. C'est encore notre adversaire, c'est pas le niveau de la SEC, puisque contre la SEC, c'était pratiquement un derby sous-régional, mais cette fois-ci, il faudra traverser l'Atlantique juste pour aller du côté de Luanda, donc ça va être un peu compliqué. Mais le stade malien qui a déjà remporté, n'oublions pas, c'est déjà remporté cette Coupe de la CAF, a l'expérience qu'il faut pour aller chercher une qualification du côté de l'Angola.
Merci bien, Élysée. Le tenant du titre, le Raja, a hérité d'African Star de la Namibie. Alors, Amdine, la renaissance sportive de Berkane fera face aux Sénégalais de Jaraf. Eux aussi, reversés en Coupe CAF. On dira encore un club marocain sur le chemin de Jaraf.
Tout à fait, Yacouba. C'est une opération rachat pour le Jaraf de Dakar qui a été éliminé en Ligue des Champions et reversé en Coupe de la CAF et qui retrouve un club
marocain. Berkane qui est considéré comme la bête noire des clubs sénégalais, puisque Berkane a éliminé dans une même saison deux clubs sénégalais, Mbour Petite Côte d'abord, qui était en Coupe de la CAF, et Berkane a réussi l'exploit aussi d'éliminer la Génération Foot qui était en Ligue des Champions, qui a été reversée. Donc Berkane est considéré comme la bête noire des clubs sénégalais et surtout le football marocain aussi. Il faut savoir, Yacouba, que depuis l'avènement de ces compétitions en 2004, un club sénégalais n'a jamais réussi à éliminer un club marocain. Sur les 8 rencontres disputées, les Sénégalais ont perdu ces 8 rencontres. Donc la mission sera très difficile pour le Giraffe de Dakar. Mais je pense que Berkane est plus abordable que le WAC. Donc il faut travailler comme le Giraffe a floré un peu l'exploit face au WAC. Ils peuvent quand même réussir un grand coup face à Berkane. Il suffit de négocier et bien négocier les demandes, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Alors, les Burkinabés de Salitas tenteront de poursuivre leur belle aventure face au Libyen d'Al-Nasr Benghazi SC. Salitas est à sa première expérience dans les compétitions continentales, mais a déjà été sensationnel en écartant Al-Nasri d'Égypte lors du tour précédent. Alors, pour en parler, nous avons en direct de Ouagadougou Salif Kabore, journaliste sportif, notre Salif Kabore, on va dire, qui est de retour. Bonsoir Salif.
Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à la Gabidou.
Merci bien Salif. Alors, dites-nous, quelle est cette jeune formation qui est montée en puissance, hein, d'abord au plan national et ensuite dans sa conquête du continent?
Oui, tout à fait. Il faut dire quand même que Salif est une jeune formation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est montée dans le milieu du football burkinabé il y a seulement 2 ans, qui fait effectivement des sensations, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan comme vous l'avez remarqué, avec sa qualification pour le coup de cadrage qui lui permettra justement donc d'affronter cette formation libyenne. Alors, Salif, je vous rappelle tout de suite que cette formation championne du Burkina Faso à mi-parcours du marathon national. C'est une équipe qui arrive tout simplement à bousculer la hiérarchie du football burkinabé avec des équipes comme la Spagne et le Ghana, une vieille formation burkinabé qui généralement donc reste au niveau donc du tableau. Il y a également des équipes comme Raimo qui essayent donc de talonner Salitas. Mais c'est une jeune formation comme je vous le disais, mais la stratégie de Salitas aujourd'hui c'est quoi? C'est que c'est une équipe qui a essayé de gagner par exemple l'année dernière au niveau de toutes les équipes du Burkina Faso, dans le milieu du football burkinabé. Et tous les meilleurs joueurs des équipes qui ont disputé le championnat l'année dernière, eh bien, Salitas a réussi effectivement à les incorporer ces meilleurs joueurs au sein donc de son effectif. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force véritablement de Salitas. Il y a également des dispositifs de infrastructures avec une belle tenue acquise à cette formation de Salitas. Il y a également toutes les commodités au sein du centre de formation Salitas. Ça peut vous dire tout simplement qu'il y a de gros moyens qui ont été investis et Salitas aujourd'hui se permet donc de les utiliser à bon escient. Voici, entre autres, si vous voulez, la force de Salitas. Alors, c'est une équipe, comme je le disais, qui va affronter très prochainement cette formation libyenne qu'on ne connaît pas très bien, mais on regarde des résultats déjà engrangés par Salitas au sein donc des différents matchs dans le cadre donc des éliminatoires de cette Coupe de Confédération. On peut dire que Salitas pourra évidemment aborder avec beaucoup de sérénité la formation libyenne.
Merci bien Salif Kabore. On rappelle que vous êtes journaliste sportif, notre Salif Kabore qui est de retour, hein, Salif Kabore dont vous avez entendu la voix plusieurs fois sur VOA Afrique qui revient. Alors, je vous souhaite simplement de passer une excellente soirée, une excellente fin de soirée et fin d'année aussi depuis Ouagadougou. Merci d'avoir été des nôtres dans Sporama. Dans les autres rencontres, le NAUSEN DEI croisera le chemin des autres Libyens du Al Ahly Benghazi. Zamalek a hérité de Tanger alors que le CS Sfaxien jouera face aux Ougandais de Vipers. Le Hassania Agadir rencontrera Dima Abba Difar d'Éthiopie. Pour rappel, l'étoile du Sahel a profité de son meilleur classement CAF pour bénéficier d'un billet automatique pour la phase de groupe en évitant les barrages. Les matchs allés se joueront du 11 au 13 janvier et les matchs retour du 18 au 20 janvier. L'actualité sportive en fin de semaine dernière surtout, c'est aussi cette affaire de racisme subie par l'international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, lors de la 18e journée de Serie A face à l'Inter Milan. Lors de ce match remporté 1-0 par l'Inter, l'international sénégalais a été la cible de cris de singe à plusieurs reprises, notamment au moment de son expulsion pour un deuxième carton jaune. Après la rencontre, l'entraîneur de Naples, Carlo Ancelotti, s'est dit déçu, estimant que le match aurait dû être simplement suspendu. Et donc on va écouter Carlo Ancelotti.
Je n'étais pas en colère, mais déçu. Je suis allé vers l'arbitre pour lui demander ce qui s'est passé. Je crois que le carton rouge de Koulibaly a été déterminé par l'état d'esprit du joueur. Il a été insulté pendant tout le match. Nous avons demandé aux autorités d'intervenir, mais seulement des annonces ont été faites à l'endroit du public. Ils n'ont pas suspendu temporairement le match comme nous l'avions demandé. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Il est très inhabituel pour Koulibaly de faire ce geste, qui est un mauvais geste, mais l'état d'esprit du joueur n'était pas paisible et je pense que l'arbitre n'a pas tenu compte de tout cela.
Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Naples. On a maintenant Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine, on dirait enfin.
Bonsoir Yacouba, enfin.
Alors, c'est un énième épisode dans cette affaire de racisme, surtout en Italie.
Et en Europe, l'Italie n'est qu'un échantillon parmi d'autres cas qui existent. Moi, je me rappelle en 2006, lorsqu'il y avait eu le cas valencien d'Abdeslam Ouadou, l'international marocain, qui avait été expulsé parce qu'il avait réagi de la même manière, dégoupillant après des cris, des hurlements, des gestes de plus en plus provocateurs. On se met dans la peau de Kalidou Koulibaly, on comprend parfaitement qu'il ne peut pas lutter contre les éléments. Ce qui est étonnant, c'est la sanction salomonique. Deux matchs à huis clos pour l'Inter de Milan, donc privé de ses supporters, et deux matchs de suspension pour Kalidou Koulibaly, qui aurait pu bénéficier de quelques circonstances atténuantes, au moins par rapport à cette décision lors d'un match au sommet. Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène que le football mondial doit prendre à bras le corps. Un phénomène qui est en train de s'étendre, puisqu'il est arrivé en Europe de l'Est, où il y a de plus en plus de xénophobie. Et visiblement, les consignes de la FIFA ne sont pas appliquées par les arbitres. Car à tout moment, il faut arrêter le match. À tout moment, il faut sensibiliser le public. Parce qu'il y a quelques énergumènes qui entraînent une partie de la foule. Et une partie de la foule, je dirais, qui est dénuée de tout sentiment raciste, se doit de réagir, de prendre ses responsabilités, parce qu'il y va de la santé du football et de l'avenir, de la pérennité de ce jeu que nous adorons tous.
Merci bien, Amine. Alors, les réactions ont fusé de par le monde. On se rappelle que tout récemment, aujourd'hui même, Diego Maradona est monté au créneau pour dénoncer ce racisme à l'égard de Kalidou Koulibaly. Alors, la sanction est tombée pour le club milanais qui va disputer deux matchs à huis clos à San Siro. Ainsi, on a décidé la Ligue italienne de football. Amdine, très rapidement, est-ce suffisant?
Non, c'est insuffisant. Moi, je parlais de ces sanctions parce que, avec l'histoire du racisme qui date de très longtemps, la FIFA et l'UEFA n'ont attendu qu'en 2013 pour sortir des sanctions. Mais ces sanctions, ce n'est rien par rapport à ce que font ces pseudo-supporters, parce qu'une suspension ou des matchs à huis clos, une amende de 50 000 euros, ce n'est rien par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que ce problème, les dirigeants du foot mondial doivent prendre le taureau par les cornes pour pouvoir quand même régler définitivement ce problème. Assez.
Merci bien, Amdine. Alors, vous le savez, c'est le dernier numéro d'Esporama sur VOA Afrique. Amdine, je reste avec vous très rapidement. Vos vœux pour cette nouvelle année 2019 qui s'annonce.
Bon, mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité, que le monde avance et sur le plan sportif, beaucoup de succès pour les Africains.
Merci et bonne année à vous. Amine.
Pire vœu pour une année 2019 prospère à vous, à votre famille, à vos amis, et puis que le sport en Afrique et le football en particulier se portent de la meilleure façon qu'il soit, avec une belle CAN en perspective et de belles compétitions également au niveau des clubs.
Élisée Mpatine.
Oui, Yacouba, mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années que 2019 apporte, surtout aux auditeurs de la VO Afrique, la prospérité, le succès, le bonheur, dans la concorde de la paix, du cœur et de l'esprit. Et j'espère que la VO sera bientôt en bonne FM à Cotonou.
Merci bien. On va terminer avec la voix du doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
ça ne peut être qu'un souhait de bonne année pour nous tous, pour toute la famille de la Voix de l'Amérique en général, et même un petit coucou pour, il ne faut pas l'oublier, notre très cher Nicolas Pinault qui a été avec nous assez longtemps.
Merci bien.
Et donc,
merci bien.
Merci à tous.
Merci bien, doyen Sporama, qui s'achève ce soir donc. Et pour cette année 2018, je vous souhaite simplement bonne année.